Hello les switchers. Ce soir, on se retrouve pour une émission très spéciale car on est avec les Foulards Roses. On est très très bien accompagnés. Du côté des switchers, on est avec Léa, notre présidente.
Coucou.
Moi-même et Clem à la régie.
Coucou.
Et je donne tout de suite la parole aux Foulards Roses.
Alors, salut à tous. Nous, on est les Foulards Roses. C'est notre projet citoyen. On est très fiers aujourd'hui de vous présenter ce podcast, quand même l'essence de notre projet. Alors, on est une belle équipe de 6-7 personnes, mais ici, on est en compagnie de Morgane. Je te laisse te présenter.
Bonjour, moi, je suis Morgane et je me suis occupée dans ce projet citoyen de gérer le contact avec l'association Emeraude.
Avec Angeline aussi.
Bonjour, moi, je suis Angeline et dans le projet citoyen, je me suis occupée de parler, communiquer avec les professeurs, etc.
Et de moi-même, Charles, qui me suis occupé de la trésorerie, accompagné de mon ami Brieux. Et on est aussi accompagné de nos deux magnifiques invités du soir ou de la journée, ça dépend quand est-ce que vous allez écouter ça. Mais du coup, elles font partie de l'association Emeraude. Qui, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites et vous présenter aussi?
Alors, je suis Martine Pecker, présidente de l'association Emeraude, fondatrice aussi de l'association Emeraude. L'association qui a 18 ans, elle est née en décembre 2005. Et donc, elle accompagne les femmes atteintes de cancer. On a un accompagnement qui est à la fois culturel et puis basé sur l'activité physique adaptée. Culturel avec un prix littéraire, avec un partenariat avec le musée départemental de Flandre qui se situe à Cassel. Et activité physique adaptée, aviron santé, escrime fitness.
Okay.
Et d'autres choses. Voilà.
Super. Et vous ?
Donc moi, c'est Sylvie, je suis adhérente à Emeraude depuis 4 ans et je suis administrative en même temps à l'association.
Okay.
Et j'ai participé aux activités.
Et
ok.
Juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce projet, justement, votre projet citoyen, c'est quoi le concept, le but ?
Alors nous, le but de notre projet, c'est donc de sensibiliser au cancer du sein et de parler notamment ici de l'accompagnement qui se fait autour du cancer du sein et comment il est reçu. Et donc, voilà. Et je pense qu'on peut commencer en parlant du fait que, justement, pour vous, on ne parle pas du cancer du sein, mais du cancer pour les femmes qui rejoignent votre association.
Oui, c'est tout type de cancer. Effectivement, le cancer du sein est le cancer le plus représenté, j'allais dire, au sein de l'association. Mais vous n'allez pas dire à une femme qui vous appelle ou qui souhaite rejoindre l'association, on ne peut pas vous accueillir parce que vous n'avez pas le bon cancer. Donc, on accueille toutes les femmes qui ont un cancer. Parce qu'elles ont toutes besoin de se réconcilier avec elles-mêmes, d'être accompagnées, de créer des liens, de retrouver confiance en elles.
Ok, je vois. Mais du coup, votre idée de fonder cette association, notamment, est-ce que ça vient du coup d'une expérience personnelle ? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit témoignage, peut-être ?
Alors moi, j'ai eu un cancer en 2003, et j'ai eu la chance d'être bien accompagnée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les associations qu'on trouve aujourd'hui.
D'accord.
Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui était top, qui m'a accompagnée. J'ai continué à travailler aussi, bon, pas les jours de chimio, bien entendu. Et puis, de mon côté, j'ai fait de la sophro, j'ai continué à faire ce que je connaissais déjà. Et quand j'ai terminé ce parcours, je me suis dit, j'aimerais que tout le monde puisse traverser cette maladie avec autant de, entre guillemets, sérénité. Et en échangeant avec une amie, je lui avais fait part de mon envie de faire quelque chose. Et un jour, elle m'a appelée en me disant « Écoute, j'ai découvert une asso qui a été créée à Paris. » Donc, elle a dû être créée aussi en 2003-2004. Cette asso s'appelle Étincelle. Et elle me dit « Je pense que c'est ce que tu devrais faire à Lille. » Donc, je suis allée, ça c'était en décembre 2004. En janvier 2005, je suis allée à Paris. Rencontrer les gens d'Étincelle. Et puis voilà, après, moi, j'ai créé tout doucement Emeraude avec des amis qui m'ont rejointe, qui m'ont dit, on va te donner un coup de main. J'ai eu cette chance-là, ouais.
C'est une très belle histoire. Et du coup, l'association Emeraude, elle est basée que sur Lille ?
Oui.
Et vous avez à peu près le nombre de membres et les activités, vous pouvez
nous
en parler ?
On a une quarantaine d'adhérentes. On n'est pas une grande association parce qu'on a envie de préserver ce côté un peu familial, un peu convivial, où tout le monde se connaît. important. Donc oui, on est à Lille. Les activités que l'on propose, alors on n'est que des bénévoles, donc d'accord. On n'a pas non plus de locaux. Ça fait au moins tous les fonds que l'on a sont redirigés vers les activités.
D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez fait partie de certaines activités, etc. Vous pouvez nous en parler aussi. Ça m'intéresse pas mal, moi. Quelles sont les activités d'Étincelle?
Ça intéresse tout le monde.
Non, pas d'Étincelle, enfin, d'Emeraude. D'Emeraude. Oh là, j'ai compris.
J'ai fait le club lecture.
Super.
Ouais, on se réunissait un lundi tous les mois. Donc Martine avait, avec une autre adhérente, avait choisi une liste de bouquins et un thème. Donc on lisait le bouquin et on devait donner notre ressenti et on devait élire le livre qui nous avait plu et on remettait un prix. Enfin, Emeraude remet un prix, il le remet toujours d'ailleurs. Je fais plus, mais oui. Donc il y a eu ça, on a fait le défilé en partenariat avec l'IESSEG.
Ok.
Donc juste avant le Covid. Ah, on a eu, ouais, on l'a fait du mardi, on était en confinement 3 jours après. Donc on a fait le défilé et moi je faisais aussi l'aviron.
D'accord.
L'aviron dans le cadre santé qu'on a mis en place l'année dernière, en avril.
Ouais. Moi j'ai une petite question par rapport au défilé, ça a changé quelque chose? Enfin, ça vous a aidé d'une certaine façon? Parce que généralement, les personnes qui font ça, je sais que c'est pour redonner un peu de confiance, de courage. Enfin, la démarche, oui, est dans ce sens-là. Est-ce que vous, ça
la
vous a aidé comme ça?
La démarche dans ce sens-là, ça a été le point final, okay, de ma reconstruction. Et on a surtout été une super équipe et un très, très bon groupe, okay, qui a créé des liens très, très forts.
Donc, ça vous a aidé d'une certaine façon ça, pour
ça
la suite,
aidé,
surtout.
Et puis, le dépassement de soi-même. Parce que défiler devant 300 personnes au Palais des Beaux-Arts...
Mais c'est un bel
tout
accomplissement quand même.
Oui.
Enfin, d'être en arrivé là et d'avoir eu le courage de le faire après tout ça, ça prouve vraiment que.
Ouais,
Il y en a derrière surtout. Il y a
on se surprend à faire des choses qu'on ne pensait pas.
Mais par rapport à ça, d'ailleurs, vous, vous êtes découvert des nouvelles passions, des nouvelles qualités ou.
Oui, des nouvelles qualités. L'aviron, j'avais très envie, j'ai essayé. Bon, j'ai une fissure au ménisque, donc pour l'instant, c'est en stand-by. La lecture, redonner du goût, les ateliers arts plastiques aussi. Enfin, on a fait le journal créatif aussi ensemble. Donc oui, ça donne des choses qu'on peut tenter de faire, qu'on n'aurait pas forcément pensé.
Forcément.
Et surtout, c'est une activité adaptée. Donc on y va en toute confiance.
Bah, c'est bien.
Parce qu'on ne se force pas, on s'est vraiment adapté à notre cas.
Et par rapport à ça, du coup, vos métiers de base, vous continuez à les faire en parallèle? Vous avez des, enfin, vous aviez dit que
alors
vous travailliez.
Alors moi, j'ai repris à mi-temps thérapeutique.
Ok.
J'ai pas pu et j'ai arrêté. Je peux plus.
Bon, après, au bout d'un moment,
ouais, je ne peux plus.
Et du coup,
Moi, je suis sophrologue.
Ok. Et du coup, ça s'est un peu allié avec parce que vous aviez dit que quand vous étiez malade, du coup, vous étiez allé voir une sophrologue, c'est ça?
J'avais déjà mon sophrologue que j'allais voir régulièrement. Donc, j'ai travaillé avec lui au niveau visualisation, lors de la chimiothérapie, lors de la radiothérapie, etc.
Et ça a changé quelque chose, du coup, dans votre métier? Enfin, vous avez appréhendé les choses d'une manière différente ou...
Oui, puis je pense que si je n'avais pas eu le cancer, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas créé Emeraude. Je pense que ça a été aussi dans la vie. C'est un... Alors, ça peut être un grand coup de. On vous donne une grosse secousse. Et puis après, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment aujourd'hui, quoi? C'est redonner du sens à sa vie. Enfin, pour moi, ça a été ça.
Une deuxième naissance, oui.
Et pour continuer sur l'association, comment vous faites pour que les femmes viennent tout simplement dans votre association?
Alors, je travaille, moi, dans ce qu'on appelle les espaces ressources cancer, qui sont des lieux d'accueil hors milieu hospitalier de personnes touchées par le cancer. Et donc, forcément, au bout d'un moment, on finit par parler d'autre chose et je leur parle d'Emeraude. Après, c'est le bouche à oreille,
oui, je pense,
aussi.
Et moi, je voulais vous poser une question à vous, Sylvie, particulièrement. Le fait de rejoindre une association,
ouais,
comment ça vous a fait appréhender votre cancer et comment ça a pu vous aider
C'est le lien avec Martine, c'est le lien avec toutes les filles. Alors je dis les filles parce qu'on accueille des hommes aussi, mais qui sont très très peu. Les hommes ne sont pas là quand ils ont, okay, un cancer. Non mais Emeraude n'est pas fermée qu'aux femmes et... Mais effectivement, les hommes, on ne les voit pas. C'est le groupe qui porte, le groupe et les activités. Okay. Et le fait aussi qu'on ait vécu les mêmes choses, on peut raconter nos chimios. on sait que...
Vous allez être comprise.
On va être comprise. Alors, moi, je pensais que c'était trop communauté. Mm-hmm. Et en fait, non, effectivement, on sait ce que c'est les effets de la chimio, de la radiothérapie ou autre chose. Donc, ça va plus vite, on a moins expliqué et on se soutient énormément. On se soutient énormément.
Okay. Il n'y a pas de jugement. Quelqu'un non. peut venir sans cheveux, personne ne, ouais. va, ne ouais. va faire de réflexion, ne va avoir ouais. un regard malveillant.
Et justement, en parlant des cheveux, je sais que je connais quelqu'un qui a eu le cancer du sein, et, enfin le cancer du sein en particulier, et que pour elle, le plus dur, c'est vraiment le fait que ses cheveux ne repoussent pas. Et vous, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous
dans l'annonce. Enfin, l'annonce.
Ouais.
Ouais.
Après, il y a eu l'annonce. Pour moi, c'était les traitements. Parce que subir une chimio, alors que vous, c'est ça qui est vicieux dans cette maladie, vous ne vous sentez pas malade. Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas sentie malade, juste fatiguée. Et de se dire qu'on allait avoir une chimio. Et une chimio a des conséquences, a des effets secondaires quand même importants. Et ça, je n'arrivais pas à le comprendre. Donc moi, ça a été ça dans un premier temps. Ça a été aussi la perte des cheveux, mais je me faisais un point d'orgue d'arriver avec des bonnets customisés, maquillés. On transforme. On transforme. Après, il y a les regards, comme dit Martine. Effectivement, quand vous allez faire vos courses et tout, vous avez un bonnet. J'ai refusé la perruque. Je me suis dit, j'assume jusqu'au bout. Il y a les regards, ça c'est sûr. Mais ce qu'on n'a pas dans l'association, effectivement.
Et vous parliez de l'annonce. Comment vous l'avez reçue, cette nouvelle?
Alors moi, je l'ai su, c'était suite à une mammographie. On m'a découvert des ganglions, parce que moi, j'avais eu la maladie de Hodgkin, donc cancer de la lymphe. Mais suite à une mammographie, parce que c'était sous mon bras, on voit tout de suite quand ça ne va pas. Vous voyez le regard des médecins, tout ça, qui vous dit que vous devez faire des scanners, des IRM, des TEP scans, tout ça. On me l'a annoncé, on m'a téléphoné, c'était Jeanne de Flandre qui me suivait. On m'a téléphoné un vendredi soir pour me dire de me présenter le lundi. Donc là, vous savez que c'est pas bon. Et on était toutes, enfin toutes les femmes qui étaient là, c'était pour des annonces de cancer. Donc ben, les médecins vous le disent... que vous avez un cancer, la maladie d'Hodgkin, il faut déterminer le stade et tout. Donc après, moi, j'étais transférée en hématologie.
D'accord.
Donc, voilà. Et là, c'est parti. Il ouais. n'y a, pas de bonnes annonces, il n'y a pas de... Fin...
Et en même temps, je suis... la façon de le recevoir un peu qui peut...
J'étais accompagnée de mon conjoint. Ça, c'est important. C'est très important quand même. L'accompagnement des enfants, de la famille, des amis, peu importe, mais des proches, ouais.
Parce que, je ne veux pas vous couper, je suis désolé.
Non, mais ouais.
Mais du coup, vous avez des enfants, vous deux, pas, non?
Moi, j'ai deux grandes filles, oui. Ouais.
Deux grandes filles?
Oui.
Et elles avaient quel âge au moment de l'annonce?
Alors, Agathe, elle avait 21 ans et Charlotte avait 28 ans.
Ah, ça doit... Moi, je n'arrive même pas à concevoir ça. Enfin,
elles non plus.
Personnellement, l'annonce, ça doit être peut-être la chose que je... Bah, en tant que personne qui ne comprend pas trop ce que ça implique, etc. Parce que... J'ai pas personne dans ma famille qui a encore été touchée, donc je trouve ça. Enfin, je suis très heureux de ça. Mais je pense que c'est la chose que je redoute le plus. Et vous l'aviez bien expliqué, je trouve que.
En fait, le cancer, c'est parce qu'on l'associe à au mot de la mort.
Oui, c'est vrai, non. C'est vrai.
Ouais. C'est vrai. Et on est dans l'association, on est dans la vie. Et je vous jure, vous venez dans une de nos soirées où on boit du champagne, on rigole, enfin, on profite de la vie XXL. Hein. Donc, c'est parce que souvent, c'est associé effectivement à la mort. Mais il y a plein de cancers qui arrivent, on est en rémission, guérir. On n'ose pas encore dire le mot, mais on commence à le dire. Mais voilà, ça avance, ça avance.
Et vous, Martine, vous l'avez reçu bien, enfin bien.
Brutalement, si brutalement, parce qu'en fait, j'étais allée en juin 2001 faire une mammo parce que j'avais une boule sous le bras et le radiologue m'avait dit non, vous inquiétez pas, c'est musculaire. Musculaire, vous continuez votre chemin. Et puis, un an et demi après, il y avait des fossettes qui étaient au niveau des aisselles. Et donc là, je suis retournée faire une mammo et il m'a dit brutalement, mais c'est tumoral, madame. Donc je lui dis, ben, vous voulez dire que j'ai un cancer? Ouais. Donc non, l'annonce a été un peu brutale et bon, moi j'étais sidérée parce que ma première réaction c'était mais c'est pas possible, je ne peux pas mourir. Donc ça a été vraiment un refus quelque part. Et puis bon, puis après, ben on vous dit que vous avez un cancer, ben, il faut mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place.
Et ça, du coup, là aussi, votre entourage, votre famille et tout, ça a été un
soutien. J'étais toute seule.
Ah oui.
Mais quand je suis allée pour faire ma mammo, j'étais toute seule, donc j'ai eu le résultat toute seule.
Et après,
après j'avais des amis proches. Non, j'étais pas. Mais
moi, j'ai juste une question. C'était dans les deux cas, c'était déjà un, c'est degré de cancer.
Il y a des stades.
Le stade, donc c'était déjà un stade de très. Quand l'annonce a été faite, c'était déjà parce que.
Gros stade.
Moi, j'étais au stade. Il y a quatre stades. J'étais au stade 3, mais ça peut. Ça ne veut rien dire, en fait. C'est est-ce que le traitement va marcher ou pas? Surtout dans mon cas, où il n'y avait pas d'opération possible, puisque c'était le sang. La chimio, elle marche ou elle ne marche pas. Donc, on fait face. Hein. Et pour revenir à la question de Charles, là où mes filles ont été importantes, c'est que moi, j'ai refusé de faire la chimio dans un premier temps. Et là où l'hématologue a été intelligente, elle m'a dit, on se revoit la semaine prochaine avec vos filles. Pour que je leur explique. Alors, elle parlait d'une façon générale. Et comme ma fille s'est effondrée devant moi, j'ai dit, OK, je fais la chimio.
Et avec le recul, c'était le bon choix à faire?
On accepte ou on n'accepte pas. Mais si je ne voulais pas la chimio, mon cancer continuait à évoluer de façon très vite. C'était le seul traitement possible.
Parce que tout le monde a un peu un parcours différent avec la maladie. Enfin, vous avez déjà deux histoires très différentes.
Moi, c'était chimio et radiothérapie.
Et vous?
Intervention, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie.
Ça a l'air plutôt loin de changer.
C'est ça qui peut vous guérir, qui peut vous sauver. Donc, on se pose même. Enfin, moi, je ne me suis pas posé la question. Quand on m'a dit chimio, je dis chimio.
Mentalité de battance directement.
Moi, je veux rebondir sur ce que vous avez dit, l'accompagnement, le fait que vous avez pris ça, pas positivement, mais que vous avez pris ça sur le ton de la rigolade, comme vous dites, vous fêtez maintenant, etc. Moi, je me souviens que ma famille a été touchée plusieurs fois, malheureusement, beaucoup de membres de ma famille. Du coup, c'est pas un sujet qui m'est inconnu, mais je me souviens que du coup, ma tante, à l'époque, quand elle est tombée malade, elle avait pris ça tellement bien que nous, on pouvait vivre la chose que positivement. Et je me souviens, c'est plus un mauvais souvenir au final. Comme vous avez dit, ça remet du sens à votre vie. Même quand c'est pas vous qui êtes touché, le fait d'être là, je suis allée avec les médecins avec elle, il y avait ma grand-mère, ma tante, ma marraine. Enfin, on l'a vécu de toutes les façons possibles. Et à chaque fois, ça n'a pas été un mauvais souvenir. Maintenant, quand je m'en rappelle, j'ai que du positif et j'ai que de l'admiration pour vous. Et j'ai l'admiration aussi pour les membres de ma famille qui ont vécu ça. Parce que moi, j'avais 15 ans, j'avais 10 ans. Enfin, c'était à différentes époques de ma vie. Et à chaque fois, je vous ai dit, je n'ai qu'un bon souvenir et c'est le fait de l'appréhender les choses. Je me souviens, ma tante, elle rigolait.
Mais on vit.
Mais c'est ça, mais en fait, c'est qu'il y a des personnes, malheureusement, elles n'ont pas l'accompagnement, comme vous avez dit, comme votre association l'apporte, et du coup, qui vivent ça d'une différente façon et qui n'en ressortent pas de le même accomplissement.
Je ne suis pas sûre ça, que l'association puisse faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment la personnalité de la personne qui va faire qu'elle va dramatiser ou elle va s'effondrer. Ou au contraire, des gens comme Martine et moi qui disent « Non, continue, on y va ». Moi, j'avais des copines au téléphone, je leur annonçais que j'avais le cancer. Elles se mettaient à pleurer, c'est moi qui les rassurais. Qui disais « Non, mais je continue à vivre, t'en fais pas ».
Vous voyez, moi, j'aurais bien aimé qu'à l'époque, ma grand-mère vous rencontre parce qu'elle n'était pas dans cette phase-là. Et même si nous, on l'était pour elle...
On
ne peut pas changer les gens, mais voyez l'accompagnement et même le discours que vous avez. Moi, j'aurais bien voulu qu'elle entende de quelqu'un d'extérieur. Parce que nous, on avait beau lui dire, ça ne changeait pas. Alors que comment vous le dites, et si vous l'avez vécu, donc je pense que ça aurait été aussi un autre point de vue que je... Ouais. Donc non, mais vraiment.
Après, effectivement, comme le disait Sylvie tout à l'heure, on n'est pas malade. Ce qui vous rend malade, ce sont les traitements. Et les jours où vous n'allez pas bien, vous restez chez vous. Vous ne voyez personne. Et quand vous voyez quelqu'un, finalement, vous donnez une bonne image. Et moi, je me disais, je suis un vampire. C'est-à-dire que quand je vois mes amis ou des gens que j'aime bien, ils ont toujours une belle image parce que j'allais bien, parce que j'adore le foot, donc j'allais au foot. Ça me faisait du bien, ça me faisait penser à autre chose. Et comme les gens me voyaient bien, en fait, c'est l'effet miroir. Quand les gens vous voient avec un sourire et vous voient, elle est bien, ils vous renvoient ce même sourire et vous les rassurez. Donc, quelque part, vous leur piquez leur énergie et puis ça vous aide à avancer.
Et vous parliez de sport.
Oui.
Comment le sport, ça peut aider à...
À avancer, à se reconstruire.
Ça, c'est un dépassement de soi. C'est aussi par rapport à la douleur. Et c'est aussi... comment ça peut se reconstruire? Ben, on a besoin de se remuscler, tout simplement, ouais, aussi, de rebouger. De... Parce que ben, quand vous restez quand même chez vous, la chimio allongée, ouais, ou les traitements, tout ça. Ouais. Bon, souvent, on le fait en fin de chimio, hein, fin de radiothérapie, fin de chimio. Parce que quand vous êtes en pleine chimio, c'est très difficile. Quoique nous, on a des filles qui le font à l'association, et bravo.
Et ça a un impact psychologique aussi, ouais, je suppose.
Oui, ça donne une énergie, ça donne de la force. Et puis, il y a toujours l'effet groupe.
L'effet groupe, on revient toujours au même, l'effet groupe, mm-hmm, ouais, qui est important.
Oui, c'est vrai ça. Je trouve qu'on revient un peu souvent sur le thème un peu de l'énergie et je trouve que ça vous correspond plutôt pas mal. Parce que non, mais sérieusement, je trouve que vous êtes comme deux petites boules d'énergie un peu qui, quand vous disiez que vous souriez et les gens vous souriez en retour, c'est pas que vous piquiez leur énergie, c'est que concrètement, non, c'est que vous leur en donnez pour moi. Vous rayonnez un peu ça et ça rentre un peu dans la chose de deuxième naissance qui m'intéresse pas mal. Est-ce que vous pouvez creuser un peu ça, etc.
Moi, je dirais deuxième naissance. Alors ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'on n'a pas de cancer par hasard.
Ah, ok. Intéressant. Alors,
c'est vrai que j'ai fait une formation en systémie et thérapie familiale. Je pense qu'on ne fait pas n'importe quel cancer par rapport à son histoire, qu'on ne l'a pas par hasard. Quand on voit ça avec un peu de recul, je peux le dire maintenant, je ne suis pas tombée du grenier à la cave, moi, quand j'ai appris l'annonce. Parce que j'étais fatiguée, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je pense qu'il faut quand même s'interroger le pourquoi il est arrivé à ce moment-là de sa vie et qu'est-ce qu'on en fait.
D'accord.
Comment on se reprojette après.
Mais quand vous dites pas par hasard, qu'est-ce que vous entendez par là? Peut-être quelque chose d'héréditaire ou plutôt vraiment sur le parcours de vie que vous
avez
eu?
Sur le parcours de vie. Alors, il peut avoir de l'hérédité, mais pour moi, elle est moindre. C'est vraiment sur le parcours de vie.
Et justement, vous diriez que qu'est-ce que ça vous a appris, j'ai envie de dire, sur vous-même, sur... la façon dont vous voyez la vie, peut-être, le fait de traverser cette épreuve.
Il y a plein de choses avec lesquelles on ne s'ennuie plus. Et qu'on est vraiment dans la vie, qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de faire des choses qui nous plaisent. Et oui, continuer à explorer d'autres choses qu'on ne s'autorisait peut-être pas avant. Parce qu'on était dans métro, boulot, dodo, et qu'on se dit, bah, ça, stop, quoi. Stop.
Et vous, Martine?
Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même? Ben, en fait, je me suis rendu compte que l'instinct de survie, je ne l'avais jamais aussi bien touché qu'à ce moment-là. Mmh. Il y avait une envie de vivre, une force de vie, et puis ne plus non plus s'embêter avec des personnes avec qui vous n'avez rien en commun. Parce qu'en en fait, il y a ça aussi. Cette maladie vous révèle quelque part. Vous n'avez plus peur parce que vous touchez du doigt. En fait, vous prenez conscience, quand vous avez cette maladie, que mourir, ça peut arriver là, tout de suite. Et je suis mortelle. Donc, puisque je suis mortelle, je peux faire des choses qui me plaisent, qui me font plaisir. Et puis, je peux aussi, dans ma vie, abandonner des personnes avec qui je n'ai plus rien en commun. Le mot contrainte, on n'a plus envie de qu'il fasse partie, même si, il y a les contraintes professionnelles, il y a toujours des contraintes. Mais des contraintes, parfois, on s'inflige dans ses relations avec les autres, etc. Là, on n'en a plus envie.
C'est un peu reprendre le contrôle sur sa vie. Quoi,
tout
finalement.
À fait, se reprendre en main. Mmh. Ouais, ouais. Puis se découvrir aussi, parce que enfin, moi, je prends un plaisir fou à mettre en place des activités au sein d'Emeraude. Un atelier de lecture partagée, un prix littéraire, voilà, j'en rêvais, et puis on l'a mis en place. Faire un défilé à la... Alors, j'y participe pas, ce sont les adhérentes qui participent, mais j'y participe un peu quand même. Faire un défilé à la piscine à Roubaix, c'est magnifique, au Palais des Beaux-Arts, au musée de Flandre à Cassel. Enfin, j'ai fait des choses que je n'aurais probablement pas faites si je n'avais pas eu ce cancer, donc...
Et comment vous gérez justement la gestion de cette association et votre travail à côté? Ça doit être un peu un rythme soutenu.
Alors, on a une chance inouïe au sein d'Emeraude, c'est que nos membres du conseil d'administration, nos administrateurs participent et prennent en charge les activités. Ce qui fait que moi, je me repose sur elle. Alors, il y a des choses que je garde quand même. Là, je suis en train de préparer le prochain atelier avec le musée départemental de Flandre, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout l'aspect culturel. L'atelier de lecture partagée aussi, je le garde. Mais sinon, après, bon, pour l'escrime fitness, c'est Danielle, notre vice-présidente, qui s'en charge. Tu étais avec elle aussi sur l'aviron santé. On a aussi cette année 6 femmes qui vont partir une semaine sur le chemin de Compostelle. Donc, c'est une autre administratrice qui a pris en charge cette activité-là. Quand on avait fait le journal créatif, c'est Sylvie aussi qui a géré. Bon, on a cette chance-là. Mmh. Donc, non, c'est pas compliqué. C'est pas... Puis cette année, on a aussi, je suis contente, on a notre atelier de lecture partagée, on va le faire avec des détenus de la maison d'arrêt de Sokoda, des femmes détenues.
Ok, ah. C'est très intéressant.
C'est super ça. je vais rebondir un peu sans trop de lien, mais moi, quand vous me disiez tout à l'heure que vous avez découvert qu'il fallait vivre votre vie au maximum, que vous étiez mortel, est-ce que vous n'avez pas... Enfin, pour moi, je tuerais pour avoir des conseils pareils de votre part. Moi, vous voyez, j'ai 19 ans, on a tous à peu près 19, 18 ans, par exemple. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire maintenant? Qu'est-ce que j'ai à pas rater?
Je ne peux pas vous dire de ne pas rater parce que vous avez votre chemin à faire et puis les difficultés à rencontrer, à dépasser. Mais si je pouvais vous donner un conseil, c'est vivez et faites-vous plaisir.
C'est vrai ça.
Et des projets.
Des projets.
Toujours avoir des projets.
C'est vrai ça.
Se projeter sur dans 5-10 ans, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu te vois. Et même si tu n'arrives pas à ça, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place à ce moment T de ta vie? Où tu changeras certainement dans 10 ans. Mais bah, qu'est-ce vrai. Que tu as envie de faire là?
Bah, c'est vrai que pour le moment, j'ai un peu du mal à me sortir de mon lit. Mais si j'y vais avec cette mentalité-là tous les jours, j'avoue qu'on est tous capables de grandes choses.
Ouais.
Et si des petits moments de baisse de morale aussi, ça arrive.
Hein. Ça fait partie de l'histoire.
Bah ouais,
comme vous l'avez dit.
Où il y a un gros nuage gris c'est qui au-dessus de la tête. Et puis bon, bah.
Les obstacles, ils font partie du parcours. Quoi,
tout à fait.
Et des belles rencontres aussi, parce que Emerald, ça a été des belles rencontres. Des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans nos sphères amicales ou professionnelles. On vient d'horizons complètement différentes. Pas différents, pardon. Et ça, c'est super important. Ça aussi, les rencontres, c'est chouette.
Ouais, j'imagine.
Ouais.
Vous avez un peu.
Tu fais des rencontres après ça. Alors elles peuvent durer quelques années, elles peuvent durer toujours. Enfin, peu importe. Mais il y a des gens qui nous marquent et c'est un plaisir fou de partager avec avec ces personnes-là.
Bah, j'imagine.
Peu importe leur âge, leur culture, leur peu importe.
Vous avez un peu des expériences très, enfin, un peu. Je ne sais pas comment le mettre en mots, mais un peu extravagante que vous avez eue. Enfin, c'est-à-dire que vous ressemblez souvent pas. Donc quand vous vous retrouvez là, c'est des gens qui ont des parcours de vie tous différents. Et du coup, est-ce que vous avez vraiment des rencontres qui vous ont étonné, par lesquelles vous n'auriez pas été capable de faire dans votre vie d'avant?
Ah, bien sûr.
Vous avez un petit exemple pour nous?
Alors moi, ça fait 20 ans que je suis avec Emerald. Donc j'ai rencontré, des personnes, alors à la fois des personnes malades et puis aussi des personnes qui vous aident à mettre en place des activités qui sont sur votre chemin pour vous accompagner sur quelque chose. Non, j'ai pas d'exemple précis, mais je pense que toutes les rencontres sont merveilleuses.
Ouais, c'est vrai ça. J'aime beaucoup cette rencontre. Ça.
C'est partagé.
Oui. J'entends plus.
Vous n'entendez plus. Non, du coup, je disais, j'ai une petite question, mais je reprends un peu celle de Charles. Si vous aviez un conseil à vous donner de quand vous aviez appris la nouvelle, après avoir vécu tout ça, est-ce que vous changeriez quelque chose?
Non. Non, mais parce que ça fait partir de notre parcours. Donc, on l'a vécu par rapport à l'annonce, par rapport... Moi, j'étais suivie au CHR, donc vraiment, j'ai pas été au col, donc on m'a pas proposé d'association, j'ai dû me débrouiller. Enfin, donc non, mais c'est ce parcours-là qui a fait que...
Ouais, que vous soyez aussi bien et que vous ayez accepté la chose de telle façon.
Par contre, c'est important de transmettre aux sœurs, parce que c'est une sororité, Emerald, avec qui on est. Si jamais elles rencontrent des petites choses ou les mêmes problèmes ou des choses similaires, on dit bah, tu peux aller là. Plus en tant que gagnant, quoi, quelque part.
Je vois. Du coup, on va peut-être en profiter pour faire une petite pause musicale, si ça vous va, et on se retrouve tout à l'heure.
Donc, comme on en parlait pendant la pause, d'où vient ce nom émeraude ?
C'est parti d'une pierre que portait ma meilleure amie à l'époque. Elle portait une bague qui était une émeraude. Elle avait des boucles d'oreilles qui étaient des émeraudes, un pendentif. Et j'ai regardé ce que ça signifiait. En fait, c'est le vert, c'est le retour de l'éternel printemps. On y arrive, parce qu'on est au printemps là aujourd'hui. Et puis l'émeraude, c'est la pierre de la santé et de la guérison qui était vénérée, je pense, chez les Aztèques et chez les Hindous. Donc c'était tout à fait...
Mais du coup, moi, je me demandais, parce que je vois que depuis tout à l'heure, on a un sujet, moi, qui me trotte dans la tête. C'est au niveau, on parle d'émeraude, d'énergie, de pas de hasard. Est-ce que, par exemple, la médecine alternative, vous en avez un peu parlé, pensé, ou c'est un sujet qui revient un peu dans votre situation ?
Alors, j'aime pas le mot alternative, je veux dire le mot complémentaire.
Ok.
Voilà. Alors, mais c'est mon chemin, c'est mon parcours, c'est mon choix. Moi, j'ai mon médecin qui est homéopathe acupuncteur.
D'accord.
Et donc, quand j'ai été malade, je faisais toutes les semaines une séance d'acupuncture. Et il m'a beaucoup aidée pour gérer les effets secondaires avec de l'homéopathie, mais en ayant bien évidemment, quand j'ai eu mon protocole, je lui ai donné. Il ne m'a pas donné n'importe quel produit, c'était toujours prescrit en fonction de ce que j'avais. Ouais. Mais ça, c'est vraiment personnel, je pense qu'on ne peut pas en faire de généralité. Chacun a son chemin, chacun a sa route, et puis chacun a ses croyances.
D'accord. Et vous, Sylvie, vous avez quelque chose à dire?
Non, mais moi, je n'ai pas fait d'homéopathie parce que c'était trop contraignant de prendre tous les jours, donc je n'y pensais pas. Après, moi, je n'avais pas le droit au massage et quoi que ce soit, parce que ça pouvait faire bouger. Enfin, ils ne voulaient pas, dans mon cas de cancer,
d'accord,
de faire des massages, de faire des choses comme ça. Donc, par contre, j'ai fait après. Là, je fais pas mal de réflexologie plantaire, on a fait de la sophro. Enfin, nous, on appelle ça des supports de soins. C'est pour ça aussi que c'est important quand on est malade et avec Emerald et les ERC. On a des socio-esthéticiennes qui sont vraiment spécialisées dans ce type dans l'oncologie, en fait. D'accord. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi.
Et je me posais la question, justement, je crois qu'on a vite fait aborder le sujet au début. Je sais qu'il y a, par exemple, des ateliers, si on peut dire ça comme ça, où on apprend par exemple à se maquiller pour s'aider finalement à garder confiance en soi, apprendre peut-être, je sais pas.
Ça, moi, je l'ai trouvé dans Espace Ressources Cancer. Parce qu'en fait, Martine, c'est très bien, Emeron, on ne veut pas calquer ce qui se fait ailleurs.
On a démarré. Quand Emeraude a démarré, il n'y avait pas d'espace ressources cancer. Et donc, on allait au domicile des personnes qui venaient vers nous, où on leur proposait ces soins de support, en fait. Il y avait une socio-esthéticienne, il y avait de la sophro, il y avait une réflexologue plantaire, il y avait de la diététique, il y avait une oncopsie. Et quand les espaces ressources cancer sont nés, en 2008, me semble-t-il, là, on a changé notre fusil d'épaule et on s'est dit, ça ne servait à rien d'être doublon et de faire la même chose. Donc, nous, on a proposé vraiment l'accompagnement activité physique adaptée et l'accompagnement plus culturel. Excuse-moi de t'avoir interrompu.
Non.
Voilà.
Mais du coup, pour revenir par rapport à Emerald, ça a été lancé à peu près, si j'ai bien retenu, 2 années à peu près après votre diagnostic ? Quelque chose comme ça ?
Alors, oui, c'est ça. J'étais malade en 2003 et Emerald est né en décembre 2005.
Et donc, d'où vous est venue vraiment cette idée ou même la première germe de créer une association ?
Bon, en fait, c'est cet ami qui m'a dit, regarde, ce qui existe, je pense que ça t'irait bien de créer ce genre de choses. Donc, et quand je suis allée effectivement à Issy-les-Moulineaux rencontrer les gens d'Étincelles qui proposaient tout ce qu'on a proposé après, je me suis dit, oui, mais en mettant ma patte.
D'accord.
Voilà. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des amis. En fait, c'est beaucoup de chance. C'est beaucoup. Vous parliez de rencontres tout à l'heure. Je me souviens, j'étais en train d'essayer de créer cette association. J'étais Boulevard de la Liberté, pas en forme parce que je sortais d'une réunion et je me disais, c'est pas ce que je dois faire. Et mon téléphone sonne. C'était une de mes amies qui me dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai pas la pêche. Je pense que je ne vais pas créer cet asso finalement. Bon, elle me dit, viens dîner ce soir. Et je suis allée dîner chez elle. Et bon, elle me dit, raconte. Donc, je lui expose un petit peu ce qui me chagrinait. Et puis, bon, elle me dit, elle était à l'époque, elle s'appelle Camille, elle était directrice de ce qu'on appelait le Palais des Métiers à Croix. Bah, elle me dit, enfin, on va domicilier l'assaut au Palais des Métiers. Et c'est parti comme ça.
OK. Et Sylvie, vous, comment c'était votre expérience pour la rejoindre, cet assaut?
C'était Bénédicte au bonheur
au
cœur des femmes qui m'en a parlé. Parce que moi, je suis éducatrice de métier, spécialisée de profession. Et avec ma collègue amie, on ne trouvait pas de... Parce que Sacher, il ne m'avait rien proposé. Et elle m'a dit, mais il doit exister des trucs. Et c'est donc Bénédicte au cœur des femmes qui m'a parlé d'Emerald. Et vous... ERC et d'Emerald.
Et vous pensez que, justement, vous aviez l'air de dire que... L'hôpital vous a rien proposé, il n'y a pas
non,
de...
Pas,
il ne vous dirige CHR. Pas vers...
Pas de suivi.
Pas au CHR, en tout cas. Pas, okay. Pas dans le service où j'étais, même
c'est
si
c'est une démarche que vous devez faire, de chercher...
Au col, je sais qu'ils proposent, je pense, ils proposent. Au CHR, en hémato, non. Par contre, on est hyper bien soignés. Mais eux, ils sont vraiment que sur le soin médical pur et dur.
Ils ne vont même pas vous dire peut-être « Ah, on connaît des ressources » ou « Peut-être non, c'est vraiment juste... »
Pas dans mon cas.
Okay. Leur priorité, c'est le soin.
Oui,
hein.
Oui c'est vrai.
C'est un peu ce que j'ai reproché, alors que je les aime beaucoup. En plus, c'est un service exceptionnel. Mais ils ne prennent pas la personne dans leur globalité.
Ok.
Ils prennent vraiment « Vous avez ça, on va soigner ça. » Les à côté, le psy... J'avais une super psy. Il y a une super psy là. Mais ils ne prennent pas en compte les à côté.
Ouais,
okay. Ça, c'est un peu dommage.
Et pour reparler de l'association, on se demande tous comment vous faites pour récolter vos dons.
On a de la chance. Alors, comment, par exemple, je vais vous prendre 2023 qui vient de s'achever. Bon, effectivement, en octobre, il y a des manifestations qui se mettent en place et on a eu la chance d'avoir une de nos adhérentes qui a mis en place une soirée caritative, un repas rose. Elle travaille au lycée hôtelier de Lille. Après, on a des gens qui viennent vers nous. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là. Alors peut-être aussi parce que ça fait 20 ans qu'on est là. Des gens qui... Alors il y a des petits dons. Vous avez des gens qui nous font un don de 24 euros. Ça fait par exemple 3 séances d'aviron payées, puisque c'est 8 euros la séance d'aviron. Après, vous avez des plus gros dons. On a des structures qui nous ont fait des chèques de 8000 euros. On a des...
La journée américaine aussi.
Oui, le Rotary. On a un Rotary qui. On a la chance qu'ils organisent chaque année une journée américaine qui se déroule à Verlingham, à côté de Lambersart. Et là, l'année dernière, on a récolté 6 000 euros.
Et du coup, comment vous faites pour vous faire connaître, pas forcément connaître du public, mais connaître pour que des femmes qui ont un cancer puissent vous rejoindre?
Il y a Martine qui intervient dans les ERC, okay. Et puis après le bouche à oreille, franchement. Ouais. Franchement, on connaît tous quelqu'un et du coup on dit « mais voilà, c'est bien, c'est chouette okay. ».
Ok, donc pas forcément à part les interventions, je sais pas trop d'exemples, mais je sais pas, en public ou des affiches ou je sais pas, des trucs comme ça pour... c'est plus ça, pour avoir de la parole et puis...
Non, mais par exemple, le défilé a eu beaucoup d'impact.
C'est vrai.
On a eu la chance aussi récemment d'avoir un article dans La Voix du Nord. J'ai eu 3-4 coups de fil.
Ah,
et on va encore en avoir là deux cette semaine parce que le journaliste est tombé amoureux d'Emeraude, je crois. cet après-midi, il est allé assister à la séance d'escrime fitness et vendredi, il est à la séance d'aviron. Et je lui ai aussi parlé du défilé qui se déroulera mardi prochain. Il m'a dit, pourquoi pas. On profite.
Du coup, de ce que je vois, c'est une asso qui bouge pas mal. Vous avez pas mal de nouveaux projets. Et si vous devez faire globalement, c'est quoi le futur pour vous d'Emeraude?
Continuer.
Avoir des projets un peu plus... Bon,
on en a un ambitieux.
Ouais,
Vous pouvez nous en parler?
Tu lances un appel au LOSC.
Waouh.
Exclusivité sur Switch.
C'est un projet qui verra le jour probablement en mai 2025.
D'accord.
Qui va mélanger le théâtre, l'expression corporelle, la danse. Qui va parler, c'est un petit peu... Allez, le cancer dans tous ses états.
D'accord, donc une pièce de théâtre.
On n'en dit pas trop pour l'instant, on est en train d'écrire à Martine.
J'essaye d'essayer d'aller chercher des infos. Mais...
Et on aimerait bien aussi avoir le LOSC comme partenaire. Et on cherche un parrain. Et on a une petite idée, donc on va aussi...
Mais on dit rien.
Ouais. On est superstitieuse quand même.
Et du coup, vous avez dit que vous n'avez pas de locaux, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un projet d'avoir des locaux ou pas du tout? C'est juste...
Non, parce que je pense que c'est important. Les gens, par exemple, vous me faites un chèque de 1000 euros. Si j'ai un local à payer, une partie de ce montant va partir pour régler le loyer. Alors que là, les 1000 euros vont partir dans une activité. Et moi, le plus important pour moi, c'est de mettre en place des activités.
Et du coup, les activités, c'est un club de lecture. Vous faites des clubs de lecture
Un atelier de lecture.
Et du coup, c'est chez quelqu'un ou ça va être...
Bateau-livre. Okay. En fait, on a un partenariat avec la librairie Le Bateau-livre à Lille. Donc, on se retrouve... En fait, cet atelier de lecture, oui, comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, c'est un thème. Alors, le thème de 2024, c'est l'évasion, les voyages. Donc, on a entre 6 à 8 livres. pas récent, puisqu'en fait, le prix littéraire Émeraude s'appelle le prix Vivre Encore. Pourquoi ? Parce que les activités d'Émeraude montrent qu'on vit à travers les activités et qu'un livre ne meurt jamais. Donc, on va rechercher un livre qu'on a aimé à un moment, qu'on a peut-être mis sur le côté, qu'on a oublié. On a envie de le partager avec les adhérentes de l'association. Et quand on a lu tous ces livres, voilà, on élit le prix littéraire que l'on remet au Conservatoire de Tourcoing, puisqu'on a un beau partenariat avec l'atelier théâtre et avec le département de jazz. Okay. Donc, oui, nos activités, ben, l'atelier lecture, ça se fait au Bateau Livre, l'aviron, au Club d'Aviron de Lille. Les ateliers de pratique artistique, musée de Flandre, ça se déroule en partenariat avec l'espace ressources cancer d'Armentières et aussi au musée. L'entraînement sur les chemins de Compostelle, bah, c'est dans la nature pour les chemins de Compostelle. L'escrime fitness, c'est notre maître d'armes et éducateur sportif à l'école Saint-Aignan à Marc-en-Barœul. Donc on a un local.
Ok, ouais, c'est pas mal de partenaires qui jouent,
oui,
les contacts.
Tout à fait.
Ok, trop bien. Ok.
Et vous avez donc un gros projet à peu près tous les ans, tous les deux ans, et que vous... C'est pas...
Non, c'est...
À l'envie.
Ouais, c'est ça. Puis les circonstances qui font que parfois, vous partez sur un projet, vous en parlez à une personne un jour qui vous dit, bah non, pourquoi tu ferais pas plutôt ça? Puis vous partez... En fait, c'est ce qui s'est passé avec ce projet qui est en train de naître.
On a parlé d'abord à un petit comité et puis on a dit on y va.
Et du coup, pour vous, le projet qui vous a le plus marqué d'Emeraude, ou votre préféré, ou le plus mémorable,
c'est le prochain.
C'est le prochain.
À chaque fois. Parce que,
cette mentalité.
Quand vous avez. Pour moi, quand un projet. Bon, j'ai envie de faire quelque chose comme l'atelier de lecture partagée. Bah oui, c'est quand il a été mis en place, c'était super, ça donne de l'énergie, ça donne de la force, ça donne de l'envie. Mais après, quand ça roule, ah ben, on en trouve un autre. Donc, c'est l'autre qui vous porte. Et c'est à chaque fois, c'est sur les projets qui vous font vivre.
C'est vrai.
Et donc, les projets que vous réalisez, est-ce qu'ils sont toujours tournés autour, par exemple, de vous, de vos adhérentes, etc. Que vous êtes toujours, ou c'est des projets dans lesquels vous faites intervenir d'autres personnes.
J'ai pas tout compris. Par rapport au cancer ou par rapport...
Au projet que vous réalisez, en fait. Est-ce que ça se tourne particulièrement vers les femmes de votre association? Par exemple, pour le défilé, ça a été, c'était le cas. Ou bien vers un public extérieur pour, je sais pas, avertir
C'est toujours à part... pour les adhérentes dans un premier temps, mais effectivement transmettre à autrui. Par exemple, là, le défilé qui va se faire mardi 26 au Beaux-Arts, il y a bien sûr tout public est bienvenu et vient. Donc c'est aussi une sorte de prévention, de dire qu'il y a des choses qui existent, qui peuvent se faire et qu'il ne faut pas hésiter.
Puis c'est aussi changer l'image que le grand public a sur le cancer, parce que comme on le disait tout à l'heure, qui dit cancer dit mort. Eh bien non, on est vivante. Et même si, malheureusement, on perd les personnes en chemin, on se dit que le temps qu'elles ont été avec nous, qu'elles ont vécu des choses avec nous, ben c'est du bonus, c'est du plus. Donc,
j'étais étonnée que vous ne posiez pas la question, parce qu'on a perdu des adhérentes qui sont décédées. Nous, par exemple, dans mon groupe du défilé, on a été un super groupe uni. On était 12, on en a perdu 2. Ça a été aussi violent, ça a été dur. Et là, pareil, le groupe a fait que on s'est réunis, on a affronté ça tout ensemble, pas chacune de notre côté.
Mais l'année, c'était 5 sur 10. Hein.
Ouais. Mais ça, on en a. Malheureusement, on en a. Il ne faut pas se voiler la face non plus.
La mort fait partie de la vie. Il ne
faut pas non plus être euphorique. Quoi. Enfin, je veux dire, tout n'est pas toujours rose. On a des coups durs aussi.
Mais c'est un peu l'impression que j'ai... Vous êtes un peu toutes des femmes, souvent très fortes. Moi, c'est un peu cette mentalité de battante que je trouve le plus fascinant à propos de vous.
C'est le mot que j'aimais pas quand j'étais malade. J'avais horreur du mot guerrière. Parce que je me dis, mais on n'a pas le choix. On l'a, le cancer. On l'accepte. On accepte le traitement, ça marche, tant mieux. On ne l'accepte pas, on sait que. On n'a pas le choix. Mais je ne sais pas si on arrive à comprendre.
Ouais. Mais du coup, maintenant, comment vous vous définirez plutôt?
Qui va de l'avant, qui a envie de vivre.
C'est un peu l'impression que vous donnez avec le chemin parcouru, les personnes qu'on perd malheureusement, mais toujours avancer.
Et maintenant, c'est vrai que moi, je me dis, j'ai pas peur de la mort. Je sais que je vais mourir. Alors, on le sait tous. Oui. Nous, comme dit Martine tout à l'heure, on l'a vécu de près, parce que c'est quand même une maladie potentiellement mortelle. Mais c'est aussi une maladie qui peut se guérir, qui peut être en rémission. Et du coup, on fait plein de choses et on y va. On y va. On n'a plus de temps à perdre.
Exact.
Surtout à nos âges, en plus.
Oh, ça va.
Mais justement, on a un regain de jeunesse. Sur mes cheveux, moi, par contre, ça n'a jamais été prévu que je me retrouve avec des cheveux courts, ni blancs. Bon, là, j'ai pas le choix.
Ça vous va. Ça vous va, merveille.
Je l'aurais pas fait sans le cancer.
Et tout à l'heure, vous parliez du défilé que vous allez bientôt organiser, c'est ça ?
Qui est fait.
Vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Alors, en fait, on a un partenariat avec l'IESSEG, avec une association de l'IESSEG qui s'appelle Défile Cancer, dont l'objectif est d'organiser un défilé et de récolter des fonds. 50% de ces fonds reviennent à Émeraude et 50% partent à la Ligue contre le cancer. Donc, en fait, on a chaque année 10, 12 de nos adhérentes qui sont mannequins d'un soir. Elles vont être maquillées, coiffées, habillées comme des vrais mannequins. Et elles ont, alors depuis septembre, elles sont accompagnées par l'association des filles de cancer qui leur a proposé un shooting photo.
Un atelier maquillage,
juste de l'improvisation du théâtre. Voilà. Donc c'est un accompagnement par des filles de cancer qui les amène au défilé.
Donc, c'est quelque chose que vous faites tous les ans
Oui, on a été les premières à accepter. On avait été, on en parlait tout à l'heure, on avait été sollicité par l'association Lueur et Élégance. Alors, je ne sais plus en quelle année, je ne sais plus si c'est 2008 ou 2009. Et bon, j'ai dit banco, on verra bien. Et le premier défilé, on l'a fait dans un endroit qui, je pense, n'existe plus. C'est l'Omnia, c'est rue Federbe à Lille.
Ah oui, l'Omnia.
Et du coup, moi, j'étais dans cette association-là. Moi, je sais que ça nous tenait à cœur d'organiser ce genre d'événement. Vous, du coup, vous les avez fait le premier, c'est ça ? Et du coup, ça vous a apporté quelque chose ?
Alors, à moi, non, mais aux adhérentes, oui. Je n'avais pas...
Ah oui, vous n'avez pas défilé à cette époque-là ?
Jamais, moi, je ne participe jamais aux activités, sauf à l'atelier lecture. C'est
donc
tout.
Même la première fois, du coup...
Non, je ne suis pas là pour ça.
Parce que je pensais que vous aviez défilé, c'est pour ça tout à l'heure, dans notre discussion, je pensais.
Non. Mais je me suis rendu compte, effectivement... que ce défilé, c'était pas qu'un défilé. Comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, c'est vraiment... Alors, moi, j'étais partie sur l'idée de changer l'image du cancer vis-à-vis du grand public, en disant que c'est pas parce qu'on a eu un cancer qu'on ne garde pas sa force, sa féminité. Parce que pour certaines personnes, vous avez un cancer, vous devez forcément avoir des stigmates. Ben non, donc on reste une femme belle, désirable, etc. Et je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà de ça. Ça pouvait ponctuer un traitement. Ça pouvait aussi booster et donner une confiance. Parce qu'en fait, quand vous avez traversé le cancer, c'est un défi qui n'a pas de nom, de toute façon. Défiler, c'est un autre défi. Et c'est aussi se réapproprier son corps, c'est se réconcilier avec soi. Et puis, c'est se dire, je l'ai fait, quoi. C'est ça.
Et des retours que vous avez des personnes qui, enfin des femmes qui ont pu participer à ce défilé, c'est ce que ça leur a apporté.
Oui, vraiment. J'ai encore des témoignages et c'est vrai que c'était vraiment ça. Et je me souviens de, bon malheureusement elle n'est plus là, mais d'Élise qui m'avait dit, tu vois, quand je me suis dit, le dernier pas que je vais faire sur le tapis, c'est ça va fermer le livre de la maladie. Bon malheureusement, ça n'a pas été le cas pour elle.
Non. Avec sa robe de princesse.
Ouais.
Elle tenait à avoir une robe de princesse.
Ouais. Et une autre petite question, du coup, de voir qu'il y a autant d'associations étudiantes aujourd'hui qui prennent vie avec ce genre d'objectifs, ça vous fait quoi ? De voir qu'il y a des associations qui étudiantes... Non, mais parce que c'est vrai, parce qu'en soi, les étudiants, il y en a la plupart qui n'ont pas vécu ce genre de situation et qui luttent pour ça, sans forcément peut-être connaître la situation. Donc, est-ce que ça vous énerve ? Est-ce que ça...
J'ai les deux. Je pense qu'il y a des étudiants. Nous, ça nous fait du bien aussi de voir des jeunes et qui s'approprient ces questions, qui sont sincères, qui sont authentiques. Donc ça, il y en a, il n'y a pas de souci. Il y en a aussi, et ça, moi, je l'ai rencontré. c'est pour mettre dans son CV.
Ouais.
J'ai fait partie de l'association cancer, je ne sais pas quoi, nanana. Ça fait bien. Mais pas du tout authentique avec les dames, enfin avec les accompagnantes. Et ça, oui, ça m'énerve profondément.
Et vous n'avez pas eu des contacts après avec les écoles, justement, pour en parler, essayer de...
On n'est jamais, enfin... En tout cas, on n'a pas été contacté par les écoles, non.
Non, ça, c'est quand même je pense qu'il y a une mode aussi. Hein.
Il y a une mode, oui.
Mais c'est ça fait bien de faire quelque chose pour les femmes qui ont un cancer.
Bon, c'est triste, mais on est réaliste. Bon, après, ça nous empêche pas de répondre oui, enfin, tout ça. Mais il y en a des authentiques comme vous, là. Enfin, je vous sens vraiment touchée, authentique et tout. Mais il faut savoir que oui, il y en a, c'est pour leur CV. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la chimio. Oui. C'est pas parce qu'on fait une chimio qu'on devient plus intelligent. Il y a la personnalité même, et ça, dans toutes les professions, dans partout, on trouvera ce genre de personnes qui sont là par intérêt et non pas par humanisme.
C'est vrai que moi, j'aurais toujours aimé, quand on a un projet avec des étudiants, j'ai posé les questions, on ne m'a jamais répondu, de dire, ben voilà, vous aviez quelle image d'une personne touchée par un cancer avant de démarrer ce projet ? Vous avez fait ce projet avec ces femmes. Après, comment vous comporteriez quelle image vous avez qu'est-ce que ça a éveillé en vous? Bon, malheureusement, j'ai jamais eu la réponse. Bah, peut-être avec vous, alors.
Est-ce que je peux vous répondre peut-être en vitesse de ce que... Ouais. Je vais essayer de répondre brièvement de cet échange. Moi, c'est comme je vous ai dit, je vous ai parlé de battante tout à l'heure. C'était un peu plus la mentalité que j'avais avant d'entrer dans ça. Mais je trouve que c'est tellement plus beau et enfin de voir d'une manière de renaître et d'avancer en fait constamment. C'est que c'est pas un stop, c'est juste même un prolongement quoi. C'est une renaissance. Moi, c'est les mots que je vais retenir, je pense, plus tard. Je sais pas si c'est vos avis.
Ouais, moi je pense que enfin déjà j'ai beaucoup appris. Enfin par exemple le fait que ici. La première chose que j'ai fait quand je vous ai appelé, c'est que j'avais dit qu'on avait pour projet de parler du cancer du sein. Et donc, c'est parce que d'un point de vue extérieur, je ne me disais pas que ça pouvait être finalement assez... exclure une partie des femmes. Et donc déjà, ça, je l'ai réalisé. Et je pense que c'est déjà une bonne chose. Et après, aussi, ça m'a permis de réaliser que chacun vive les choses différemment. Et puis que c'est... Finalement, c'est les plus grosses épreuves qui nous font avancer le plus, quoi. Et c'est, je pense, des choses que j'ai beaucoup retenues de ces échanges.
Moi, oui, et puis nous sommes des femmes normales. C'est-à-dire que la vie, on n'est pas... c'est pas parce que quelqu'un a un cancer que vous devez lui parler de telle ou telle manière. Non, c'est continuer à être avec cette personne comme vous l'étiez auparavant. Enfin, ne rien changer dans votre comportement parce que c'est là où c'est plus compliqué après. Excusez-moi, je vous interromps.
Moi, c'est juste une petite question. Est-ce que cette mentalité, est-ce qu'on l'a après tant d'années ou... parce que quand l'annonce est quand même brutale... Il faut un petit temps quand même. Je dis ça comme si j'en sais rien. Mais au moment de l'annonce, est-ce que c'est après tant d'années que vous avez ce recul ou très vite en fait ça arrive cette battante ou juste de positivité de relativiser.
Ça va vraiment dépendre de la personnalité de la personne. Il y a des gens qui vont se laisser aller, qui vont toucher le fond pour remonter après. Il y en a qui vont toujours toucher le fond, qui vont se placer en tant que victime aussi. Ouais. Et c'est ça, nous, qu'on ne veut pas non plus montrer à l'émeraude. On n'a pas l'étiquette cancer, comme un toxico n'a pas l'étiquette toxicomane ou alcoolique. C'est une maladie. Et il y en a, par contre, il y en a qui se servent de ça pour dire moi j'ai le cancer hein, donc nanani nanana il faut donc je pense qu'on est comme ça, on l'est pas, et après il y a aussi les rencontres, je reviens sur les rencontres qui font
les activités
qui font que on prend le train en marche ou pas. C'est pas,
mais la personnalité aussi de chacun, enfin c'est la
personnalité,
c'est vraiment on réagit mais c'est comme n'importe quelle épreuve dans votre vie. Chacun va réagir en fonction de ce qu'il est, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de lui, point.
Mais du coup, j'ai l'impression que vous êtes un peu en conflit avec la vision qu'ont les gens de l'opinion publique. du cancer en général. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas la mission un peu d'Emeraude aussi, surtout ? Est-ce que vous voulez vraiment appuyer là-dessus ? Mais du coup, ce serait quoi la vision maintenant
Déjà,
à
tous
donner,
les cancers,
etc.
ce serait bien.
Ouais, pas que les cancers.
Pas que le cancer
voilà,
du sein.
Pas que le cancer du sein pour les femmes.
Alors, c'est très glamour, hein, c'est très à la mode d'avoir un cancer du sein. Ça touche la féminité, ça touche à ta
Mais même pour quelqu'un qui ne suis pas forcément éduqué à tous les cancers et le cancer du sein, je trouve que moi, quand je regarde la télé ou dans les médias, on parle du cancer du sein, on a le moelle, etc.
Alors, c'est vrai
événements.
Que ça touche énormément de femmes.
C'est
hein,
vrai, c'est... mais c'est... Mmh. ça rentre.
Oui, voilà. On ne met pas assez en avant les autres cancers, je trouve. On est beaucoup sur le cancer du sein pour les femmes, comme
et
par exemple...
La prostate,
les... voilà. Ça, mais pas assez sur les autres cancers, alors qu'il existe plein d'autres cancers, en fait.
Bah, c'est tous les cancers. Un cancer est un cancer.
Oui, voilà,
et on
ça.
Se rejoint tous sur les traitements, sur la radiothérapie, sur un tas de choses.
Ouais,
quoi.
Et moi, j'avais une petite question. J'ai l'impression qu'on associe très souvent le cancer du sein à la femme. Mais qu'en est-il chez les hommes ? Est-ce que chez Emeraude, vous recevez beaucoup d'hommes ? Tout à l'heure, vous en avez parlé. Justement, je me questionnais beaucoup. Donc,
alors, depuis qu'Emeraude est née, nous avons accompagné 3 messieurs.
D'accord.
Mais ce n'était pas des cancers du sein, parce qu'effectivement, les hommes peuvent avoir des cancers du sein. Alors, il y a un pourcentage qui est faible. Je n'ai pas le chiffre en tête, donc je ne vais pas vous le donner, je ne vais pas dire de bêtises.
Oui.
Mais alors moi, ça fait depuis 2006 que j'accompagne les personnes atteintes de cancer. Et j'ai rencontré un monsieur qui a eu un cancer du sein.
D'accord. Et est-ce que vous pensez à une raison pourquoi les hommes ne se présentent pas chez Emeraude ?
Chez Emeraude, bon...
Enfin, pas forcément chez Emeraude, mais en général...
Mais dans les espaces ressources cancer, alors il y en a quelques-uns.
Il y en a peu. Il
y en a peu, oui. Je pense que là, je dois en avoir eu depuis qu'il travaille une vingtaine, pas
D'accord.
plus. Alors, ceux qui viennent, ce sont ceux qui assument... On a tous une part masculine et une part féminine en soi.
Mmh.
Et... Alors, c'est ma petite expérience, ça vaut ce que ça vaut, mais les hommes qui viennent dans les espaces ressources cancer sont ceux qui assument pleinement leur part de féminité.
Et de la maladie.
La maladie, mais aussi accepter de dire, ben voilà, moi j'ai besoin aussi d'être accompagnée, c'est pas parce que je suis un homme, le côté je suis costaud, non, je pleure, j'ai peur, donc j'ai aussi besoin d'avoir des massages, de faire de la sophro, de faire de la gym adaptée, etc.
Bah, je suis une personne humaine avant tout.
Tout à fait.
Clairement.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez un mot, un message à transmettre pour clôturer cette émission ?
Vous avez probablement des belles morales à nous donner. Moi, j'aimais bien les petits conseils que vous m'avez donnés.
Même un message de prévention.
Voilà, un message à nous faire passer.
Moi, je vais vous dire tout à l'heure, le cancer, qu'est-ce qu'il m'a appris ? Je suis devenue égoïste. Je suis plus centrée sur moi-même, même si c'est paradoxal. Même, bon, je vais à l'association et tout, mais je pense tout d'abord à moi.
Ce qui n'est pas forcément un problème en soi.
Oui.
Il faut penser non, mais je me suis fait vraiment... Enfin, je me suis rendu compte que je passais après tout le monde. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, je m'occupais beaucoup des autres et j'écoutais peu mes besoins.
Vous êtes refait passer au premier plan.
Ouais, et là, j'écoute mes besoins maintenant. Ouais. Et puis après, ben, sur le message, c'est... Faut pas avoir peur, faut être réaliste, faut le combattre. Et faites-vous aider, effectivement, faites-vous aider. Peu importe le moyen, mais se faire aider, c'est important.
D'accord.
Je pense que c'est important aussi de toujours y croire, se battre et toujours y croire.
Ouais.
On m'a dit dans l'oreille tout à l'heure que vous avez une page Facebook, Emeraude.
Oui, Emeraude 59.
D'accord, et un site internet également.
Qui est en ce moment en chantier.
En chantier, pas de souci. Eh bien écoutez, merci à vous d'être venus, merci à vous mesdames de nous avoir offert justement ce témoignage. Vos expériences, c'était très intéressant. Et
merci
je vous dis au revoir.
Merci à
tous. Merci, au revoir.